Voilà, donc nous sommes le 2 décembre et pour cette conférence, nous allons aborder la question de comment trouver sa juste place grâce aux constellations familiales. Je vais me présenter dans un premier temps. J'ai coutume de dire que je suis un être humain en évolution parce que je trouve que les pédigrés que l'on peut avoir n'ont plus tellement d'intérêt. La seule chose que vous puissiez avoir besoin de savoir, c'est que je suis psychopraticienne et constellatrice et que j'exerce à Trélissac. Voilà, donc je suis passionnée par les constellations familiales depuis les années 90. Les constellations familiales nous viennent d'Allemagne avec le fondateur qui est Bert Hellinger. Et ça a été mis au goût du jour depuis un certain nombre d'années déjà, puisqu'il y a beaucoup de traductions de ces livres qui ont été publiées depuis. Donc maintenant, ça commence à être relativement connu en France, les constellations familiales. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les constellations familiales? Parce que je vais vous parler de comment trouver sa place, mais si vous ne comprenez pas comment ça se passe concrètement, une constellation familiale, ça ne va pas être très explicite. D'abord, beaucoup de personnes s'interrogent sur le terme constellation, en me disant, mais c'est quoi? C'est de l'astrologie, les constellations, les planètes? Pas du tout. Hein. On prend souvent la métaphore de dire que quand on n'est pas à sa juste place dans un système familial, ça crée un désastre. Donc le astre de constellation, vous voyez le jeu de mots hein, un peu alambiqué. Donc les constellations familiales se passent en général de deux manières. Soit c'est en collectif, donc on prend un groupe comme par exemple ici, et quelqu'un vient se placer à côté du constellateur pour dire, ben voilà, moi je rencontre telle difficulté, je n'arrive pas à renouer la relation par exemple avec ma fille. Et donc la personne va choisir dans l'assistance quelqu'un qui va la représenter elle, quelqu'un qui va représenter sa fille. Et il va y avoir quelques questions qui vont permettre de clarifier quelles autres relations peut-être mère-fille posaient problème dans le système familial. Qu'est-ce qui s'est passé d'important dans le système? Est-ce qu'il y a eu des événements douloureux, des choses particulières dans l'histoire familiale? Et à partir des placements qui vont se faire dans l'espace, donc il y aura par exemple la fille qui sera là, peut-être que la mère sera ici. On va demander aux représentants, des personnes comme vous qui ne connaissent rien du tout au système familial, comment ils se sentent là où ils sont. La personne qui représente la mère va dire, bah, moi, je ne vois pas ma fille, ça ne m'intéresse pas. Et puis la personne qui est là, qui représente la fille, va dire, je suis triste parce que ma mère ne me regarde pas. Et donc petit à petit, il va y avoir des déplacements qui vont être proposés et des phrases de pacification qui vont être prononcées, qui vont aboutir à un moment donné à ce que il se passe quelque chose au niveau de la relation et que ça s'améliore ensuite dans la vraie vie. Les effets d'une constellation, ça peut être quelques heures. Il n'est pas rare d'avoir quelqu'un qui appelle juste après une constellation. Eh bien, le présupposé de la constellation, c'est que nous sommes tous reliés dans un système familial. Nous sommes tous connectés et nous n'avons pas besoin de connaître l'histoire pour que l'histoire passe, et monsieur me demandait tout à l'heure, mais comment se fait-il que l'histoire passe d'une personne à l'autre dans un système, alors que certaines choses ne sont pas dites, ne sont pas connues même. On prend l'exemple des enfants adoptés, par exemple, qui ne connaissent rien de leur système, et pour autant, ils sont habités par leur système d'origine. Eh bien, on s'est aperçu il y a quelques années que ce qui se passe, c'est qu'il y a des marqueurs dans notre ADN. Alors, non seulement il y a des marqueurs dans l'ADN, mais également, il y a tout l'inconscient et l'inconscient collectif familial qui transite par les personnes. Donc ça se passe à différents niveaux. C'est pour ça qu'on considère que la constellation familiale fait partie à la fois des thérapies brèves, mais que c'est un outil qui a une dimension sacrée et spirituelle. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc il va y avoir des phrases de pacification. Les effets peuvent être assez rapides et ça peut mettre jusqu'à quelques mois, quelques années, en fonction de la problématique et de la capacité qu'a le système d'intégrer la pacification. On a coutume de dire que le frein à la réussite d'une constellation familiale, c'est l'ego. Si la personne veut trouver une solution entre la relation à sa fille et la mère-fille, mais que finalement la mère ou la fille continue à rester dans une position d'ego et ne veut pas, par exemple, reconnaître ce qui lui a été transmis de par sa mère, eh bien, elle va continuer à aller mal parce que son ego va dire non, je ne veux pas prendre la solution. C'est son choix. Et ça se pratique également donc en individuel. Alors, en individuel, c'est un peu différent. On n'a pas la chance d'avoir des représentants qui sont traversés par le champ informationnel du système familial. Mais on va placer soit des objets, soit des papiers au sol. Et on va se déplacer derrière chaque objet pour sentir, si je suis la fille, comment je me sens là où je suis. Et la personne, si c'est au cabinet, va se placer derrière la mère, comment je me sens là où je suis. Et il va y avoir de la même façon des phrases de pacification et de résolution qui vont être proposées. Le frein en individuel, c'est les projections que la personne peut faire. C'est-à-dire, si je sais que ma mère a telle ou telle attitude, quand je suis sur son papier, je peux projeter ce que je sais d'elle et ne pas être connectée à mon ressenti au moment où je suis sur le papier. Mais si la personne est dans son ressenti, elle peut tout à fait sentir des choses qu'elle n'aurait pas conscience de recevoir dans la réalité. Par exemple, elle peut sentir l'amour que sa mère lui porte, alors que dans la réalité, elle est peut-être persuadée que sa mère la déteste. Donc voilà, le frein en individuel, c'est ça, c'est les projections et les interprétations qu'il peut y avoir. Voilà pour le quèsaco de la constellation familiale. Donc ça c'est une cousine de la psychogénéalogie. Pour ceux qui ne savent pas, la psychogénéalogie, c'est l'arbre généalogique intelligent, c'est-à-dire qu'on a les dates, on a les noms, on a les prénoms, et on a les événements marquants, on va avoir les métiers, on va avoir les accidents, on va avoir les suicides, on va avoir les fausses couches, on va avoir les avortements, on va avoir tout ce qui, pour le système familial, provoque de la honte, de la culpabilité, de la souffrance, mais aussi des joies. Donc la généalogie, c'est je fais mon arbre familial, je vais demander la copie intégrale des actes de naissance pour avoir tous les éléments, mais la psychogénéalogie inclut d'autres éléments. C'est ainsi qu'en faisant ce qu'on appelle un génogramme, c'est-à-dire un arbre généalogique intelligent, j'appelle ça intelligent parce qu'il y a tout un tas d'informations à côté des prénoms et des noms, et on va s'apercevoir qu'il y a des schémas de reproduction. Tiens, c'est les tiens-tiens du constellateur ou du psychogénéalogie. Tiens-tiens, toutes les femmes se marient au même âge. Tiens-tiens, il y a un enfant qui disparaît au même âge. Tiens-tiens, toutes les femmes se marient enceintes dans ce clan. C'est les tiens-tiens qui font qu'on repère des schémas de reproduction dans les systèmes. D'ailleurs, il n'est pas rare que deux personnes qui se marient ou qui se mettent ensemble aient les mêmes problématiques dans leur propre système familial. On va retrouver par exemple de l'immigration dans deux clans. On va retrouver des choses plus douloureuses comme des faillites ou des abus sexuels dans les deux clans. Voyez, c'est pas par hasard qu'on se rencontre en fait. Il y a des schémas, il y a des résonances. Et tout ça, c'est inconscient. Voilà pour définir à grande maille ce que c'est que la constellation. C'est un outil. Hein, c'est un outil de libération et de pacification. Maintenant, pour revenir à la question de comment trouver. Oui,
Je peux
pardon.
vous poser une question, s'il vous plaît.
Oui.
Quand vous évoquez le fait que quelqu'un représente
Oui.
Un membre de la famille, est-ce que ça interdit que deux personnes de la même famille viennent à une même constellation familiale?
Alors, ça n'interdit pas. Pour ma part, quand il y a deux personnes d'une même famille, je fais sortir chacun à son tour pour préserver l'espace de confidentialité de chacun et parce qu'on ne sait jamais ce qui peut émerger. Imaginez que je fasse venir monsieur, madame, et puis que dans la constellation, il semble que monsieur ou madame a une relation extra-conjugale. C'est mieux que. Moi, j'ai pas envie de gérer ça en live, donc je préfère que chacun ait son espace. Après, libre aux personnes d'échanger sur ce qu'ils ont vécu. Il faut avoir aussi en tête que la constellation familiale, quand on a bien travaillé, à la fin de la constellation, vous ne vous rappelez pas de grand-chose de ce qui s'est passé. Parce que ça ne se passe pas au niveau du mental, ça se passe au niveau de l'âme, en fait. Hein? Donc, parfois, on dit, mais oui, je me rappelle des constellations des autres, mais la mienne, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Je ne me rappelle plus trop. Donc,
Au
c'est
cours d'une
normal.
séance, c'est la constellation d'une personne où on arrive à avoir le temps de faire la constellation de plusieurs
En
personnes.
une journée, j'ai 10 constellations qui passent. Donc, j'ai 10 personnes qui viennent. Par exemple, dimanche, là, j'ai un atelier de constellation. J'ai 10 personnes et chacun va passer à son tour. Donc, tour à tour, les personnes sont constellées. Ils viennent avec leurs problématiques et à la fois représentants pour les autres constellations. Et parfois, ce qui se passe en constellation collective, c'est qu'il y a des intégrations plus fortes quand je participe aux constellations des autres parce que je suis moins dans mes freins et dans mes blocages. Quand c'est mon tour de passer, voilà, j'arrive avec tout ça. Et quand c'est pour les autres, c'est pas rare de pleurer pour les constellations des autres. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tous la grande famille humaine, que toutes les histoires, elles s'enchevêtrent. Et d'ailleurs, ce qui est troublant dans les constellations, c'est que parfois, on va choisir quelqu'un qui porte le même prénom que ma vraie mère, ou dont le père porte le même prénom que le mien. Enfin, vous voyez, il y a plein de résonances, il se passe des choses assez troublantes. C'est un moment assez magique et c'est assez fatigant. Il faut savoir que si un jour, ça vous tente d'expérimenter la constellation, ne prévoyez rien le soir. Juste de vous reposer, parce que c'est fatigant. On est traversé, vous qui êtes dans l'énergétique, on est traversé par le champ informationnel de chaque personne qu'on va représenter. Hein. Donc imaginez, c'est comme si vous serviez de canal, de tuyau, puis qu'à chaque fois, il y a une énergie différente qui arrive. Donc à la fin de la journée, on est un peu fatigué. Mais c'est super riche et c'est une belle expérience humaine.
Alors quand vous faites ces ateliers, par exemple, s'il y a 10 personnes, chaque personne, à son tour, vient poser. Voilà. Il n'y en a pas qui viennent que pour aider à chaque personne.
Alors, il peut y avoir des gens qui viennent uniquement en tant que représentants, c'est-à-dire des gens qui n'ont envie que d'observer mon travail ou le travail d'un autre constellateur et qui n'ont pas envie tout de suite de s'exposer en faisant une constellation. Alors, en général, j'en prends une ou deux maximum parce que ma salle n'est pas immense non plus. Hein. Ça, c'est possible. Le tarif est inférieur puisque ça travaille quand même, mais la personne ne place pas son système familial. D'accord. Il faut savoir qu'on peut placer son système familial, mais pas que. On peut aussi utiliser la constellation familiale quand on a un problème de santé, pour comprendre qu'est-ce que ce symptôme veut dire. On peut placer, par exemple, quelqu'un qui a du mal à vendre une maison, on peut placer un représentant qui va représenter la maison et qui va peut-être dire, ben moi, j'ai pas envie que ma propriétaire parte. Ok, donc il y a peut-être des rituels à faire, voyez, pour que la personne puisse partir de cette maison.
La personne expose son problème quand elle veut, elle expose sa question.
Oui, tout à fait. Et dans la formation que j'anime, parce que j'anime aussi des formations en constellation, on s'est amusé à consteller les animaux. C'était super intéressant. Il y avait, j'avais représenté juste nos animaux, on n'avait pas de problématique particulière, mais la personne qui me représentait, donc j'avais choisi dans mes élèves une personne, et puis on a trois animaux, donc on avait placé les animaux. Et la personne qui représentait mon chien, elle était collée à moi. Elle dit, je vais être collée à elle. C'était drôle parce que c'était vraiment comme ça que mon chien fonctionne, quoi. Tout le temps en train de m'observer et de me suivre partout dans la maison. Donc voilà, on peut consteller plein de choses différentes, pas que le système familial. La constellation aussi professionnelle, quand quelqu'un a un choix de formation à faire, une orientation professionnelle, une création d'entreprise. Voilà, tout est possible. Il y a les constellations familiale et systémique, pour l'entreprise, ça fonctionne aussi. Voilà. Je ne pourrais pas vous faire de démonstration, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps, mais c'est parfois que je fais. Alors, qu'est-ce qui fait frein pour trouver sa place dans un système familial ? On ne parle pas de questions de confiance en soi, ce sont des choses qui se travaillent d'une autre manière. Ce qui fait frein pour trouver sa place, c'est souvent ce qu'on appelle les loyautés familiales invisibles. Alors, c'est quoi cette affaire des loyautés familiales invisibles ? Eh bien, dans un système familial, on se sent bien, en fait, inconsciemment, quand on est comme les autres. Donc, si les gens vont bien dans notre système, alléluia, mais si jamais ils sont pauvres, eh bien, je vais me sentir bien si je suis pauvre comme. Si je suis malade comme. Il n'est pas rare, par exemple, dans une famille où il y a un enfant handicapé, que ceux qui sont valides deviennent handicapés. C'est ce qu'on appelle des loyautés invisibles. C'est plus confortable inconsciemment d'être comme que d'assumer son propre destin et d'être en santé. J'ai eu une stagiaire dont la grande sœur était handicapée et elle n'avait pas du tout de handicap. Et au bout de quelques années, elle a eu un problème de santé qui a provoqué un handicap. Ça, c'est typique d'une loyauté invisible, vous voyez. On va trouver les résonances dans les loyautés sur les métiers. Vous avez parfois toute une lignée où il n'y a que des médecins, par exemple. Ou alors, vous avez des résonances sur les prénoms, sur les dates de mariage, ou les dates de naissance, ou les dates de conception, parce qu'on regarde aussi les dates de conception, hein. Sur les accidents, sur les événements marquants. On va voir que dans une famille, eh bien, par exemple, il y a des faillites à différents niveaux. Le grand-père, les parents, les enfants, etc., des problèmes d'argent. On va retrouver ça à plusieurs étages. Et puis au niveau des maladies aussi, on va retrouver des choses. Alors parfois, ce n'est pas exactement les mêmes maladies. Par exemple, peut y avoir quelqu'un qui était sourd parce qu'il a eu un obus qui a éclaté pendant la guerre, et on va avoir quelqu'un qui a un problème d'oreille parmi les descendants. Donc c'est pas aussi marqué, vous voyez, mais on a comme une trace qui reste. Donc les loyautés font frein. Et c'est tout à fait inconscient, c'est-à-dire que les gens ne vont pas se dire « je veux être malade comme », ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est invisible et inconscient. Je ne vais pas aller tellement plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, en constellation familiale, on dit « les grands-parents agissent, les enfants subissent et les petits-enfants payent ». C'est-à-dire que ça descend dans l'arbre, on va dire. Donc quelque chose qui n'a pas été résolu à un certain niveau du clan familial, si ça n'a pas été résolu, eh bien quelqu'un d'autre de plus jeune, qui n'est absolument pas au courant de ce qui s'est passé en amont, va porter les conséquences ou bien des dynamiques qui sont en lien avec son ancêtre. Par exemple, imaginez que quelqu'un ait provoqué un accident, un arrière-grand-père, par exemple, a provoqué un accident qui a conduit à la mort de quelqu'un, et il a été dédouané, par exemple, il n'a pas assumé les conséquences de cet acte-là, d'une quelconque manière, eh bien, on va avoir chez un descendant quelqu'un qui va être dans un mécanisme, ce qu'on appelle de l'expiation. L'expiation, c'est des mécanismes d'auto-sabotage. Il va s'empêcher d'être heureux de différentes manières. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va réintégrer en constellation familiale à la fois l'arrière-grand-père et sa victime, puisque l'expiation, l'auto-sabotage, fonctionne si la victime n'est pas vue. Donc, c'est très important de voir la victime et de la reconnaître et de l'honorer. Et ça va être pacificateur. En constellation, on n'est pas là du tout pour porter des jugements de valeur sur les ancêtres, hein. N'est pas en train de leur régler leur compte, mais on est en train de réintégrer ce qui a besoin de l'être. Voilà pour l'histoire que les enfants et les innocents portent les fautes, entre guillemets, ou les problématiques de leurs ancêtres quand ça n'a pas été résolu. Alors, en constellation, pour revenir à quelque chose qui va peut-être vous parler, on considère qu'il y a trois lois fondamentales qu'on appelle aussi des ordres. Trois lois. Donc la première loi, c'est la loi de l'appartenance. L'appartenance, ça veut dire que toute personne qui arrive dans le système fait partie du système. Il y a des choses qui sont simples et il y a des choses qui deviennent plus complexes. Alors, il y a le système, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et puis après, ça s'élargit, c'est-à-dire il y a les conjoints. Il y a toutes les personnes qui ont impacté le système, que ce soit en positif ou en négatif. Par exemple, quelqu'un qui a, lors de l'accident, tué quelqu'un de mon système, eh bien, les deux systèmes vont être liés. Si je me marie avec quelqu'un, eh bien, ça fait deux systèmes qui sont liés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre peut faire partie du système? Alors, les parents biologiques d'un enfant adopté font partie du système, mais les parents adoptifs aussi font partie du système. Une nourrice qui aurait eu un rôle très très important pour une personne peut faire partie du système. Toute personne qui a eu un impact positif ou négatif sur le clan peut faire partie éventuellement du système. Il y a tous les liens, on va dire, de sang, mais pas que. Donc la première loi, c'est la loi de l'appartenance. Ça veut dire que dès qu'il y a un exclu dans le clan, ben, ça pose problème et quelqu'un d'autre va se charger de réintégrer l'exclu en adoptant le même comportement que lui ou en ayant les mêmes problématiques d'exclusion que lui. Qu'est-ce qu'on appelle les exclus dans un clan familial? Toutes les personnes qui ont provoqué de la honte, de la souffrance ou de la culpabilité. Quelqu'un qui a dilapidé la fortune, quelqu'un qui a fait de la prison, une femme tondue après la guerre, quelqu'un qui s'est suicidé, quelqu'un qui était homosexuel. Enfin, voilà, toutes les personnes qui ont une différence ou qui provoquent des réactions difficiles dans le clan. Hein. Donc, dès qu'il y a un exclu, eh bien, un descendant va se charger du sac à dos. Et donc là, quand on parle de problème de place, c'est qu'en fait, il va vivre une vie qui n'est pas la sienne. C'est pour ça que ce n'est pas sa place. Donc, en rendant à César ce qui lui appartient avec le travail de constellation, on va lui permettre de se dissocier de son ancêtre dont il portait la charge. Et ça va lui permettre d'être libéré et de vivre son propre destin. D'où l'importance de faire une exploration par un questionnement pour savoir ce qui s'est passé dans le clan. Qui a été exclu dans le clan, par exemple? Ça, c'est la première loi qu'on appelle la loi de l'appartenance. La deuxième loi, c'est ce qu'on appelle la loi de la hiérarchie. On appelle aussi la loi de la préséance. Il y a plusieurs noms, cette loi. Ça veut dire qu'on arrive dans un système familial dans un certain ordre chronologique. Les parents précèdent les enfants. Ça paraît logique. Les grands-parents précèdent les parents et ainsi de suite. Le premier enfant précède le deuxième. Vous voyez, c'est de la logique. Alors, ça devient plus compliqué quand on a des familles recomposées. Parce qu'il y a les premiers partenaires, le nouveau partenaire, les enfants du premier lit, éventuellement les enfants du second lit. Et ça, il y a un ordre à respecter dans le système en fonction de l'arrivée dans le système. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas vous embrouiller, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un ordre. Et alors, c'est surtout là qu'on va trouver les problèmes de place lorsque la loi de la hiérarchie n'est pas respectée. Je vous donne un exemple. Dans la plupart des familles, il n'y a pas si longtemps, le clan attendait le garçon, le porteur du nom. Quand la fille arrivait en premier et que le second était un garçon, eh bien, il arrivait fréquemment que la fille soit zappée. C'est-à-dire que, oui, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aimée, mais quelque part, on donne plus d'importance aux garçons, surtout dans les familles où il y avait des agriculteurs ou des terres à transmettre, ce genre de choses, vous voyez. Et donc, sans que les choses ne soient dites, quelque part, il y avait une inversion des places. C'est-à-dire que la fille était reléguée à la deuxième place et le garçon, c'était lui qui allait reprendre les terres, c'était lui qu'on mettait en valeur, c'était lui qui allait faire les études, la fille, elle pouvait... Deuxième problématique dans les fratries, quand il y a des enfants, soit qui sont morts en bas âge, soit qui sont morts et dont on ne parle jamais, parce que c'est trop douloureux, ça devient tabou, ou alors quand il y a des fausses couches, parce que les fausses couches décale la place. Donc si je suis le premier enfant vivant, mais qu'avant moi, ma mère a fait une fausse couche, en réalité, ma vraie place est deuxième. Je suis la première des vivantes, mais la deuxième. Et comment je vais voir que ça me pose un problème, par exemple ? Eh bien, au travail, à chaque fois, je vais me faire zapper ma place pour être augmentée, par exemple. Il y aura toujours quelqu'un qui passera en premier avant moi. Je passerai toujours en deuxième. Donc c'est important de bien connaître... sa place dans la fratrie, parce que ça va permettre de mieux prendre sa place dans la vie, niveau professionnel, amical et autres. Alors, la hiérarchie, elle pose aussi problème lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'adultisation, c'est-à-dire l'inversion des rôles entre parents et enfants. Ça vous parle, ça, ou pas du tout? C'est-à-dire quand l'enfant, pour une raison ou une autre, est amené à prendre en charge son parent. Exemple, les enfants d'immigrés. Par exemple, qui ont dû aider leurs parents à s'intégrer dans le pays. Et donc, quelque part, on leur a fait porter certaines responsabilités qui n'étaient pas de leur âge. Deuxième exemple, je prends mon enfant comme confident. Je vais lui raconter peut-être ma vie privée avec son père. Ou... Là, je mets mon enfant au même rang que moi. Et donc, l'enfant n'est plus à sa place. Les enfants abusés sexuellement, ils sont mis à une place qui n'est pas la leur. Hein, donc, il y a des inversions de place. Et donc, ils ont du mal après à trouver leur juste place dans la vie. Les parents qui sont alcooliques, drogués, que les enfants récupèrent au sol et doivent mettre au lit. Les enfants qui ont des parents handicapés, qui doivent les prendre en charge. Tout ça peut provoquer des problèmes de place au sein de la famille. Ça, c'est des choses marquantes. Mais il y a des choses plus subtiles. Par exemple, une femme est enceinte et au moment où elle est enceinte de son bébé, elle perd sa mère. Donc, dans la matrice de la maman, le bébé, il sent « maman va pas bien ». Donc, ma mission, ça va être de la réparer. Donc, l'enfant n'est pas encore sorti, que déjà, il s'investit d'une mission de prendre en charge sa mère. Vous voyez qu'il n'y a pas d'intention de la mère, mais ça se fait quand même. Donc, à un moment donné, dans le travail, on va permettre à cette personne de reprendre sa juste place, hein, en faisant tout un travail de pacification entre la mère et la grand-mère, entre la fille et la mère, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le non-respect de la loi de la hiérarchie, c'est à peu près 80% des problématiques de place. Donc la fratrie et les relations parents-enfants. Alors ça devient évidemment compliqué lorsqu'il y a des remariages. Parce que en constellation, c'est important aussi de respecter, d'honorer les précédents partenaires, parce qu'ils prennent une place. Et si je suis le deuxième partenaire et que je n'arrête pas de critiquer le premier partenaire, la première partenaire de mon conjoint, quelque part, je me mets en position haute par rapport à la précédente partenaire, alors que là, je ne suis que la deuxième partenaire. cette position d'humilité, voyez. Et quels que soient les comportements de la première partenaire. De la même façon, les enfants d'un premier lit ne doivent pas être rejetés sous prétexte que je crée un nouveau couple avec quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, la hiérarchie n'est pas respectée. Et ce qui se passera dans les systèmes, c'est que les enfants du nouveau lit, ce que j'appelle lit, ça va, c'est du nouveau couple, eh bien, pourront avoir des problématiques d'exclusion, parce que les premiers enfants du premier lit, on en revient à la loi de l'appartenance aussi, ne seront pas, peut-être, on s'en occupera plus, on ne les recevra pas, il n'y aura peut-être pas de pension alimentaire, je ne sais quoi. Donc, c'est les enfants du second lit qui se feront payer ce qui se passe avec les enfants du premier couple. Inconsciemment toujours, hein, de façon invisible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en constellation, il y a des tentatives de rééquilibrage maladroites. C'est ce que certains appellent l'amour qui rend malade et non pas l'amour qui guérit. Ce sont des tentatives de rééquilibrage qui provoquent les problématiques. Et enfin, la troisième loi, c'est ce qu'on appelle la loi du donner-recevoir. Alors, c'est souvent les deux premières qui sont les plus présentes, mais la loi du donner-recevoir, c'est que, par exemple, dans un couple, s'il y en a un qui est handicapé et l'autre pas, eh bien, celui qui n'est pas, il donne plus d'attention, de soins que celui qui est handicapé. Il y a parfois des problématiques dans les couples quand il y a des déséquilibres entre le donner et le recevoir. Alors, le donner-recevoir, ça peut être aussi une grosse différence d'âge, de grosses différences d'études, de grosses différences de revenus, des mariages mixtes, par exemple. Il y a besoin parfois de faire des rééquilibrages. Et la meilleure façon de rééquilibrer, c'est que la personne qui reçoit plus soit en capacité de dire sincèrement merci. Merci de rester avec moi, bien que je sois handicapée. Donc c'est une façon de rééquilibrer. Mais j'ai connu un couple où le monsieur était handicapé. Et lui, sa façon de rééquilibrer, c'est que c'était un artiste et il était très reconnu. Et donc il vendait ses toiles et il avait de forts revenus. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de façons de rééquilibrer. Pour prendre un exemple, et là, on est un peu moins sur le thème de la juste place, mais pour le donner-recevoir, est-ce que vous avez déjà observé que quand vous avez un ou une amie qui est en difficulté et que vous passez des heures et des heures à le consoler ou à l'écouter, au moment où la personne va mieux, elle disparaît du circuit, hein, ce qui se passe, c'est que vous avez mis la personne en dette, en l'aidant. Et la meilleure solution pour la personne qui a reçu tout votre amour et toute votre attention, ce serait de vous remercier. Mais comme le poids de la dette pèse sur ses épaules et qu'elle ne sait pas inconsciemment comment rétablir une forme d'équilibre, eh bien, elle préfère s'enfuir. Donc, c'est pour ça. C'est le poids de la dette. C'est important de rééquilibrer les choses, aussi bien en amitié. Mais en amitié, on n'est pas en train de compter le nombre d'heures qu'on passe avec ses amis ni le nombre de cadeaux qu'on leur fait. Ça se fait, c'est comme un balancier, c'est quelque chose qui est vivant, qui bouge. Si je reçois, par exemple, un cadeau d'une valeur, je n'ai pas n'importe quoi, de 100 euros, et qu'à mon tour, j'offre un autre cadeau de la même valeur, il n'y a pas ce mouvement de balancier. C'est-à-dire qu'on est à égalité, la relation pourrait s'arrêter. Ce qui provoque le mouvement de balancier, c'est que parce que j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui donner sans compter, et parce qu'il m'aime en retour, il va me donner sans compter, et ainsi ça va augmenter le volume des échanges, on va dire, et la qualité de la relation. Pour prendre un autre exemple, aujourd'hui dans les couples, les gens ont tendance à donner peu, comme ça ils ne sont pas très engagés. Je donne peu, je reçois peu, et on est libre en fait. On peut faire du zapping relationnel, et d'ailleurs au bout de 6 mois à 2 ans, c'est la fin de la période de fusion dans le couple. Et en général, on commence à se reverticaliser, à retrouver sa position, à avoir envie de reprendre ses activités. On voit l'autre sans les écailles du début, où on voyait l'autre comme le prince charmant ou la princesse. C'est plus le prince charmant, c'est le crapaud, c'est plus la princesse, c'est la souillon. Et on voit les choses telles qu'elles sont. Mais c'est là que commence le vrai couple, en fait. Et aujourd'hui, comme on est dans une culture de zapping, c'est à ce moment-là que les gens se séparent. Et ils vont recommencer la phase fusionnelle avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, tous les 2 ans. 2, 3 ans, ça dépend des gens. Voilà pour les lois. Il y aurait beaucoup à dire, hein, mais j'essaye d'être à peu près synthétique, hein, en respectant le timing. Je voulais aborder maintenant les solutions, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, évidemment, vous avez compris qu'on peut utiliser la constellation familiale. Mais comment? comment utiliser la constellation familiale pour tenter de pacifier des problématiques de place. Alors, quand il s'agit de réintégrer quelqu'un qui a été exclu en constellation familiale, ben on va faire venir l'exclu. Si c'était, par exemple, si je vis la vie par procuration de mon grand-père qui était ostracisé parce qu'il a fait faillite et qu'il a perdu tout l'argent et que tout le monde lui en voulait dans le clan, ben je vais faire réintégrer le grand-père qui était exclu. À ce moment-là, en réintégrant l'exclu, en honorant son destin, le lui laissant, eh bien moi, le descendant qui était porteur de son sac à dos, je vais pouvoir me libérer de ce sac à dos et cette fois-ci vivre mon propre destin. Donc les phrases de pacification, à titre d'exemple, je me lève parce que je vois que vous ne voyez pas bien. Les phrases de pacification, imaginons que ce soit le cas, on va mettre le grand-père là, qui a dilapidé la fortune ou qui a tout perdu. On va mettre celui qui soit des problèmes d'argent aussi, comme son ancêtre, soit qui se fait rejeter ou exclure de différents milieux. On va le faire positionner d'abord de façon intuitive par la personne qui constelle. Et puis à un moment donné, pour qu'ils communiquent facilement, on va les faire se mettre face à face. Et on va faire dire, par exemple, hein, c'est un exemple au descendant, « Cher grand-père, j'honore et je respecte ton destin difficile. D'une manière ou d'une autre, j'en ai porté le poids. S'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance si mon destin est plus léger que le tien. J'honore ton destin, c'est ton destin, et je m'occupe du mien. » Et ça va couper le lien de loyauté invisible avec le grand-père. Éventuellement, le grand-père pourrait avoir besoin de dire certaines choses. On verra ce qui se passe avec le représentant.
Faut-il savoir aussi qu'a fait le grand-père, parce qu'on ne sait pas.
C'est ça qui est... Alors, demande quand même, on mine d'informations sur sa propre famille.
Alors, bon, au niveau des grands-parents, on arrive à avoir quand même certaines informations. Après, au-delà, on n'a pas forcément les éléments. Dans certains cas, on ne sait pas de qui il s'agit. Par exemple, en constellation, l'attitude des représentants indique que, de façon, on va dire, corporelle, s'il y a un mort dans le système. Donc, on va faire placer un mort. On ne sait pas qui est le mort. Qui est le mort? Qui est cet exclu qui a besoin d'être vu? Et on va dire, puisqu'on ne sait pas qui c'est, et on n'a pas besoin de le savoir pour pouvoir accéder à la pacification, on va dire dans ce cas, qui que tu sois, je te vois, réintégration de l'exclu, j'honore ton destin, s'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance, si, et on va évoquer la problématique, si...
Et c'est vous qui donnez les phrases aux personnes alors, comment ça
oui,
se passe?
Je vais inviter les personnes à répéter les phrases. Alors, en constellation, ce sont des phrases extrêmement simples et archaïques, parce que l'idée n'est pas de faire du blabla, mais d'accéder vraiment à quelque chose de très profond. Donc, par exemple, si on avait évoqué tout à l'heure la loi de la hiérarchie, où un enfant se vit supérieur à son parent, parce qu'à un moment donné, il a assumé son parent pour une raison ou une autre, on va proposer à la personne de s'incliner devant son parent. Tout le monde propose de s'incliner comme ça. Certains constellateurs proposent même de mettre les genoux à terre et d'autres de se mettre à plat ventre par terre. Ça dépend. Pour ma part, je fais faire comme ça. Et ça paraît simple de s'incliner devant son parent, techniquement, on va dire. Mais quand on se vit supérieur à son parent parce qu'on l'a porté, parce qu'on l'a assumé, eh bien, s'incliner, c'est très compliqué. Et bien souvent, les personnes qui ont du mal à s'incliner devant leurs parents ont des problèmes de dos. Et d'ailleurs, dans la constellation, quand vous voyez les gens qui s'inclinent, ils sont comme ça. Ils n'arrivent pas à se baisser. Ils ont comme un balai, vous voyez, dans le derrière. Ils sont coincés. Alors, quand ils y arrivent, ils disent « c'est curieux, j'ai moins mal au dos hein ». Donc, j'ai formé des ostéos aussi en constellation familiale. Ils disaient « c'est intéressant aussi d'avoir cette approche qui n'est pas uniquement corporelle ». Parce que si on a ça comme problématique d'avoir une difficulté à honorer son parent, eh bien le problème de dos va revenir en permanence. L'ostéo va faire un bon travail, à chaque fois ça reviendra. Quand on dit honorer ses parents, ça ne veut pas dire que je cautionne des comportements inadéquats chez eux. Mais à minima, j'honore la vie qu'ils m'ont transmise. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je ne serais pas là pour en parler. Donc j'honore la vie qui m'a été transmise. Et j'aime bien prendre cette métaphore. Souvent, les gens disent « Oui, mais si j'avais eu d'autres parents, quand même, ce serait plus cool. Hein. Oh, si j'avais eu une autre vie, j'aurais pas galéré comme ça. » Alors, ma philosophie, c'est que les cartes qui nous sont distribuées à la naissance C'est un peu comme un jeu de poker. On peut avoir un super jeu et perdre. Puis on peut avoir un jeu pourri et gagner. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec les cartes que j'ai reçues? Ou bien ça va me permettre de développer une forme de résilience et de devenir plus fort et de développer certaines qualités. Je prends l'exemple des enfants battus, par exemple. Et dire, c'est pas cool d'être battu. Évidemment que ça n'est pas cool. Mais les personnes qui ont été battues, elles développent des qualités que d'autres ne développent pas. Elles développent des antennes. Elles développent des antennes pour repérer d'où peut bien venir le danger. Est-ce que je vais m'en prendre une? Et elles développent la capacité de discerner chez le parent, si c'est le parent maltraitant, si le parent risque de leur en mettre une ou pas ce jour-là, en fonction de la façon dont il se déplace, en fonction de l'énergie avec laquelle il entre dans la pièce. Donc, cadeau ou fardeau, c'est quelque chose qu'on utilise comme formulation en constellation. Cadeau ou fardeau, ce que j'ai reçu? La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai reçu? Je peux continuer à afficher la carte du parti victime de mes parents, bourreau de soi-même, comme disait Guy Corneau, ou bien me dire, ok, c'est les cartes qui m'ont été données, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Donc le travail d'honorer la vie, c'est très important, d'honorer ses parents aussi, ça ne veut pas dire d'être en relation nécessairement quand les parents sont toxiques, hein. Il y a des moments où les personnes sont invitées à se protéger elles-mêmes de parents qui sont toxiques, ça arrive, hein. Bah, si ça nous parle. Dans ces cas-là, on peut le faire de façon symbolique. On n'a pas besoin d'aller voir le vrai parent, mais on peut faire le travail symbolique en cabinet ou en collectif. Et ça va avoir un effet. Et bien souvent, les gens me disent, mais c'est curieux, la relation des parents a vraiment changé depuis la constellation. Ou bien, j'ai été rappelée par un cousin qui ne m'a pas donné de nouvelles depuis 15 ans, juste après la constellation. Et en échangeant avec mon cousin, j'ai appris un secret de famille. Très très typique du travail de constellation, ce qui est vraiment la démonstration qu'on est tous connectés. Un jour en formation de constellation, j'ai une personne dont le grand-père était parti vivre aux États-Unis avant la guerre, parce qu'il n'y avait pas de travail dans son secteur. Et en fait, il était vu comme le méchant, celui qui avait abandonné femme et enfant, qui était parti à l'étranger, qui n'était jamais revenu. Et en fin de compte, pendant la formation de constellation, la personne, par ce cousin, apprend que le grand-père, il avait fait venir femme et enfant aux États-Unis. Mais c'est madame qui n'a pas voulu rester, qui est repartie en France et qui a laissé croire que monsieur l'avait abandonné. Vous voyez, ça c'était la légende, mais ça n'avait rien à voir avec les faits concrets. On apprend parfois des choses. Je me rappelle une autre fois, une personne avait appris que son père n'était pas revenu tout de suite d'Allemagne après la guerre. Il était resté un an de plus. En fin de compte, il était amoureux d'une Allemande là-bas. Il était obligé de revenir parce qu'au bout d'un certain temps, s'il ne revenait pas, il n'aurait pas de prise en charge financière en tant que prisonnier de guerre. Donc il était revenu, puis il avait fini par se marier avec une Française. Mais son cœur était resté là-bas en Allemagne. Et donc après, qu'est-ce qui se passe en termes de loyauté invisible? Ben, vous allez avoir des enfants qui se marient avec des Allemands ou des petits-enfants qui s'intéressent à la langue allemande ou qui vont vivre en Allemagne. Parce que ce qui n'est pas dit à un certain niveau, ça va se redescendre de façon invisible et ça va se manifester par des choix. Par exemple, vous avez aussi des gens qui ont fait les colonies, par exemple en Afrique. Et puis, alors, comme par hasard, vous avez les petits-enfants qui ont des mariages mixtes. Ben, c'est parce qu'il y a eu des enfants métis qui sont nés pendant les colonies. C'était les secrets, il ne fallait pas que ça se sache. Ah, mais les hommes qui partaient là-bas pendant des mois travailler dans les colonies, ils ne restaient pas fidèles à madame qui était restée sur le continent. Pareil pour les marins. Donc en fait, il y a des choses qui se passent, qui sont cachées et qui deviennent un peu comme des marqueurs. Des tiens, c'est curieux dans ce clan-là. Tiens, il y a quand même beaucoup de mariages mixtes. Qu'est-ce qui s'est passé au-dessus? Et on regarde et on voit, tiens, il y a des colonies là. Ils étaient en Congo belge. Donc c'est intéressant quand vous commencez à vous mettre le nez dans votre arbre généalogique, vous allez être comme des Sherlock Holmes et vous allez voir tous les petits cailloux qui étaient là depuis toujours et que vous n'aviez jamais vus. Je prends souvent, moi je suis tombée dans la marmite des secrets de famille quand j'étais toute petite. J'ai appris à 14 ans que mon père n'était pas mon père Et puis beaucoup plus tard que mon grand-père officiel n'était pas mon grand-père. Et un beau jour, je découvre, parce que je faisais quand même la dimension généalogique, c'est intéressant d'avoir les vrais documents. Et intéressant aussi, important de savoir compter quand on est constellateur. Et je découvre que ma grand-mère s'est mariée un mois avant la naissance de ma mère, enceinte de 8 mois quand même. Et je découvre ça, puis je lui dis à ma grand-mère, je lui dis, « Dis donc, mamie, tu t'es mariée enceinte de 8 mois. Oh, » Je la vois devenir toute cadavérique, elle me dit, « Oh, surtout ne le dis pas à ton grand-père. » Je ne sais pas comment elle s'était débrouillée pour se marier sans qu'il voie à quel moment elle s'était mariée avec le mari précédent. Parce que normalement, c'est dans les documents, hein. Elle avait dû se débrouiller. Mais c'était tellement douloureux. Il faut quand même aussi remettre les choses dans le contexte historique. C'est qu'elle était née en 1910. Ma mère est née en 1930. Et à l'époque, être fille mère, c'était quand même pas top. Hein. Donc c'était quand même vu comme honteux.
En fait, ça peut remonter jusqu'à combien de générations?
On considère que ça peut remonter jusqu'à 7 générations.
Les grands-parents ouais. peuvent monter encore en questionnant les uns et les autres. C'est ça.
C'est difficile d'avoir l'accès à des informations très très haut en fait. Oui. On aura certaines informations comme les dates, les prénoms, les lieux et les professions. On n'aura pas s'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des enfants morts-nés. On n'aura pas s'ils ont dû par exemple quitter une région pour aller dans une autre. On n'aura pas s'ils sont morts de faim. On n'aura pas les accidents, on n'aura pas les suicides. Mais ça donne quand même déjà des pistes pour savoir d'où les gens venaient, par exemple.
En fait, l'arbre généalogique, quand il se constitue, en recherchant la trace de chacun, en fait, on peut, peut-être c'est une piste pour commencer, parce qu'il y a une époque où on avait très peu, surtout si les familles sont éclatées, on n'a pas forcément l'historique de chacun.
Non.
Et ça peut être une piste de départ pour avoir une info qui en emmène une autre.
Exactement, c'est comme ça qu'on fait, on tire sur la bobine et on tire sur chaque fil. Alors on commence par les parents, puis on remonte. Il y a des endroits où ça bloque parce que soit pendant la Révolution, ça a disparu, soit c'est à l'étranger et donc on n'a pas accès aux informations, mais on peut remonter. On considère que sur 7 générations, on peut être porteur. Mais d'une certaine manière, dans la mesure où on est tous plus ou moins connectés, tout ce qui s'est passé dans un système, ça s'est passé dans beaucoup de systèmes. Les fausses couches, les avortements, les morts prématurées, les femmes mortes en couche, tout ça c'est hyper douloureux. Les gens qui ont changé de religion aussi, vous voyez, on évoquait les choses qui provoquent de la honte, de la culpabilité, de la souffrance. Bien souvent, vous allez avoir de la stérilité parfois dans le clan descendant, parce que il y a quelqu'un qui s'est ressenti comme ayant trahi Dieu. Donc il y a l'expiation chez les descendants. Vous voyez, il a trahi Dieu, il a trahi ses vœux. Et comment la femme est-elle vue si jamais il s'est marié, ce monsieur qui s'est marié, qui était prêtre? La femme est vue comme une femme de mauvaise vie, hein, qui a détourné un homme pieux de sa vocation. Hein. Attention, hein. Donc les femmes sont mal vues aussi dans ce clan. Vous voyez toutes les conséquences de choses qui se passent dans les systèmes familiaux. Donc, parmi les solutions, réintégrer les exclus, honorer la vie qui nous a été transmise, couper les identifications avec certaines personnes. Donc si je suis identifiée à quelqu'un qui a subi ceci ou cela dans mon clan, on va couper l'identification en remettant les choses en place. Parfois, symboliquement, on peut aussi utiliser des poids pour redonner, par exemple, à nos parents ce qui leur appartient. Si l'enfant a été adultisé, par exemple, moi, je vais lui donner quelque chose de lourd dans les bras. Et je vais lui dire, approche-toi de, admettons que ce soit le père, la personne a assumé son père, approche-toi de ton père et dis-lui, cher papa, avec tout mon amour, je vais te rendre ce qui t'appartient. Puis là, vous voyez si le représentant est d'accord. Parce que parfois, le parent était bien content que l'enfant il assume à sa place. Mais c'est quand même lui le grand. Donc, voilà. Et puis, on va laisser le paquet. Et puis, on va le faire s'incliner devant la vie, etc. Et souvent, le parent va dire, mon cher fils, en me rendant, ou ma chère fille, en me rendant ce qui m'appartient, tu me rends ma dignité. Bah, car c'est moi le grand et toi le petit. Vous voyez les phrases archaïques. Et ça percute. Donc on va rendre les paquets à ceux à qui ça appartient. Alors parfois aussi ce qui se passe par rapport aux loyautés invisibles. Vous savez, il y a des systèmes où toutes les femmes, par exemple, sont dans des mécanismes de soumission. Où toutes les femmes, aucune n'a fait des études. Donc il y a des sortes de loyautés comme ça. Et la dernière, en bout de course, là, elle aimerait bien faire des études. elle aimerait bien sortir des schémas de soumission, elle n'y arrive pas, parce qu'elle est loyale à toute la lignée. Donc on fait parfois un travail sur la lignée des femmes ou la lignée des hommes. Et on va honorer chaque binôme, mère-fille, etc., jusqu'à la descendante. Et elle, elle va dire qu'elle honore leur destin, que d'une manière ou d'une autre, elle a porté le programme de soumission et d'interdit à la réalisation professionnelle, mais que maintenant, c'est terminé.
Est-ce que ce n'est pas culturel aussi ? Ben, le fait, par exemple, vous dites de ne pas étudier.
Par
on
exemple,
l'a peut-être tous connu, c'est-à-dire on pense que la jeune fille, enfin, camarade de classe peut étudier, puis tout d'un coup, en fait, comme dans la famille, ils n'ont pas été plus loin et que ça suffit, en fait, il y a peut-être aussi une transmission culturelle. Enfin,
c'est ce qu'on appelle une loyauté, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un plafond. On disait tout à l'heure, je peux être comme, mais dès que je suis différente, ça devient compliqué dans le système. Parce qu'à ce moment-là, je me sens moins appartenir. D'ailleurs, parfois, quand quelqu'un, par exemple, fait des hautes études alors qu'il vient d'un milieu ouvrier, moi, je me rappelle une personne que je connais très bien, qui disait, quand il revenait dans sa famille, les parents lui disaient « Ah, bonjour, monsieur !» Il le prenait un peu comme « t'es pas comme nous, quoi ». Hein, tu joues l'homme qui a réussi, mais n'oublie pas d'où tu viens, en fait. C'était ça qu'il voulait lui dire, n'oublie pas d'où tu viens. Et lui, il n'oubliait pas d'où il venait, mais eux, ils sentaient la différence de classe qui était en train de se marquer. Donc, je prenais l'exemple de la soumission, mais ça peut être l'interdit de la réussite, ça peut être la maltraitance. Il y a la maltraitance qui redescend, hein, de père en fils, au dernier. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui redescendent. Hein. Prenons le cas de l'immigration. Quand vous avez de l'immigration qui, dans un système familial, pour des causes souvent financières ou politiques, les Espagnols, par exemple, qui sont partis sous Franco, ou bien vous avez les Italiens qui sont venus en France parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté, ou des Polonais, enfin voilà. Le fait de quitter son pays d'origine crée une déloyauté, parce que je laisse là-bas tout un tas de gens de ma famille, et je les laisse vivre ce qu'ils ont à vivre, mais du coup, mon destin est plus léger, puisque moi, je vais chercher, dans un nouveau pays, à me réaliser d'une autre manière. Eh bien, bien souvent, le fait de s'autoriser à aller dans un autre pays est coûteux, parce qu'il va y avoir, comme s'il y avait un prix à payer. Il n'est pas rare que dans ces systèmes-là, il y ait un enfant qui décède, qu'il y ait des avortements, qu'il y ait, chez les descendants, des difficultés à trouver un logement. Parce qu'imaginez que ceux qui ont dû quitter tout, il n'avait plus de logement. Donc celui qui arrive dans le pays, il a du mal à trouver une maison, par exemple. Ou alors, il est blindé de diplômes, mais il est magasinier. J'en ai eu comme ça, bac plus 8, magasinier. Ou alors, j'ai des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ça leur file entre les doigts, il ne reste rien à la fin du mois. Ou alors, les gens, ils gagnent peu d'argent. Ils gagnent aussi peu que les autres qui sont restés au pays. Vous voyez, la loyauté. Il y a toutes sortes de façons, l'immigration... On a aussi la loyauté autour de la langue. Vous allez avoir des enfants dysorthographiques, il y a de l'immigration dans le clan. C'est comme si c'était pour eux une façon de dire « moi je refuse d'intégrer la langue de ce pays, en fait je reste loyale à la langue du pays d'origine ». Il m'est arrivé de consteller un monsieur qui avait un enfant qui était dyslexique et dysorthographique, et ce monsieur il était algérien d'origine. Alors on peut aussi représenter, je vous disais tout à l'heure, on peut représenter les pays aussi par des représentants. Donc, il y avait le représentant de la France, il y avait le représentant de l'Algérie, il y avait le représentant du monsieur qui venait faire la constellation, et il y avait le représentant de son fils. Alors, le monsieur, il met l'Algérie dans un coin, il met la France à côté, et puis il positionne son fils dans un territoire plutôt de confrontation. L'enfant était en colère contre le père. Et quand on demande à l'enfant comment il se sent, ben lui, il était attiré par l'Algérie, en fait. Donc, je fais revenir l'Algérie dans le champ pour que l'enfant puisse voir le pays d'origine. Il se sentait très, très bien à côté de l'Algérie. Et j'ai proposé au monsieur qui constellait de faire un travail de pacification avec le pays, c'est-à-dire j'honore le pays d'où je viens. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire je vais retourner, c'est pas ça. J'honore le pays d'où je viens, j'honore mes racines, c'est là que sont enterrés mes ancêtres. Et le monsieur, il avait du mal à dire ça. Il avait du mal à honorer le pays de ses ancêtres. Et parfois, en constellation, on propose des phrases provocatrices. Parce que la solution, en réalité, c'est que monsieur accepte les deux pays. On ne lui demande pas de choisir entre l'Algérie et la France, puisque finalement, il est les deux, ce monsieur. Donc, il ne pouvait pas accueillir l'Algérie dans son cœur, en fait. Donc, je lui propose de dire une phrase qu'il a hérissée. je vais vous la livrer. Je lui ai fait dire, je préfère que mon fils continue à aller mal plutôt que d'honorer le pays de mes ancêtres. Et là, il m'a dit, je ne veux pas dire ça. Là, j'ai dit, c'est pour ce, pourtant ce à quoi vous êtes en train de jouer. Ah, il dit, ah, bon. Et à ce moment-là, il a pu honorer son pays d'origine. Donc, il n'y a pas de choix à faire. Il s'agit d'intégrer ce qui nous constitue. C'est un peu comme dans un couple séparé, éventuellement, s'il y a un des parents qui dit, tu peux te prendre tout de moi, ne prends rien de ton père. Il est alcoolique, il boit, il est feignant. Comment l'enfant se sent-il? Il est la moitié de chacun de ses parents, et bien plus, bien sûr. Hein. Si je lui dis que la moitié de lui, c'est rien, comment peut-il se sentir? Et l'enfant ne peut pas être en déloyauté à son parent. Donc il va tenter de faire le grand écart entre les deux. Et pour faire le grand écart entre les deux, il va devenir exactement comme le parent dont l'autre ne veut pas qu'il lui ressemble. Donc moi je dis souvent en termes de provocation, si vous voulez avoir un enfant alcoolique ou drogué, tapez sur le dos de votre ex-partenaire. C'est la meilleure méthode, c'est un peu provocateur, mais c'est ce qui se passe. L'enfant va devenir alcoolique si le père est alcoolique et on lui dit surtout ne deviens pas alcoolique comme ton père. Ce qui est libérateur pour un enfant, c'est qu'il puisse prendre des deux et après qu'il n'ait pas de choix à faire. Ce qui est très douloureux pour un enfant, c'est d'avoir à choisir entre son père et sa mère. Imaginez la culpabilité de l'enfant qui doit choisir un parent. Le choix amène l'enfant à la culpabilisation. Et donc, il va se le faire payer. C'est très compliqué et c'est pourtant ce que certains juges demandent aux enfants, de choisir entre papa et maman. C'est très douloureux. Si les adultes étaient adultes, quand ils se séparent, ils devraient pouvoir se rappeler ce qui a fait qu'ils ont rencontré leur ex-partenaire et pouvoir honorer leur ex-partenaire parce qu'il leur a donné cet enfant qui est quand même une merveille. Et moi, je leur fais souvent dire, je remercie ton père de m'avoir donné un merveilleux enfant comme toi.
Et un enfant, admettons, qui se drogue, tout ça, et aucun des deux parents ne se drogue, l'enfant se drogue, dans ce cas-là, ça dommage quoi, ça?
Alors, il peut y avoir, parce que toutes les addictions lourdes sont des mécanismes de suicide à petit feu. Il peut y avoir des gens qui sont morts prématurément dans le clan. Et dans ce cas-là, l'enfant est en train de suivre quelqu'un qui est mort prématurément. Il pourrait avoir des accidents ou avoir des tentatives de suicide ou avoir de la boulimie ou de l'anorexie, qui est d'autres façons de se suicider à petit feu. On va regarder qui d'autre est... Alors, première question, qui d'autre était éventuellement drogué ou alcoolique dans le clan? S'il n'y a personne... Qui d'autre est mort prématurément? Qui a eu un accident dans le clan? Qui a tenté de se suicider dans le clan?
Il faut que cette personne ait ces informations, parce qu'il y a souvent l'information, la personne n'a pas toujours les... Si c'est une famille qui ne parle pas beaucoup, qui n'échange pas beaucoup sur ce qu'elle a vécu, qui reste très pudique, la personne concernée n'a pas toujours accès à ces blocages ancestraux.
Parfois, on peut prendre un représentant qui représente le secret, et on voit si le secret... il a sa place ou pas dans le système.
Et encore, faut-il savoir qu'il y a un secret, non?
Si on n'a aucune information...
Pardon?
Si on n'a aucune information, on va tester, est-ce qu'il y a un secret? On prend une personne qui représente le secret, et on voit près de qui elle se place. Ce n'est pas de la voyance non plus, mais c'est quelque chose qui est systémique. C'est pour ça qu'on appelle ça les constellations familiales et systémiques. On fait avec ce que l'on a. Ne pas avoir d'information, c'est aussi une information. Qu'est-ce qui fait qu'on ne connaît rien de ce système-là? Étrange. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait aucune information? Ça donne de l'information quand même. On fait avec ce que l'on a. Et on voit ce qui se passe. Il y a une série récente là, qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, qui parle de constellation familiale. C'est la première fois que je vois qu'on parle de constellation familiale. Donc je vous en parle. Alors attention, la façon dont ils ont de faire des constellations familiales est un petit peu romancée. C'est-à-dire qu'ils prennent un représentant et tout seul, et la personne, elle a plein d'informations qui lui viennent comme si elle était médium. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. C'est beau pour l'histoire, c'est très romancé, ça mérite de faire passer beaucoup de messages très intéressants sur le travail de constellation familiale, les mémoires. Par exemple, vous verrez qu'il y a une chirurgienne qui commence à trembler et on s'aperçoit qu'elle a un de ses ancêtres qui a tremblé à un moment donné parce qu'il se passe un événement très douloureux, traumatisant. Et donc, à partir du moment où c'est exposé, à ce moment-là, elle ne tremble plus. Vous voyez, les symptômes parfois nous rappelle quelqu'un d'autre dans le clan qui a eu le même symptôme. Parce qu'au-delà des lois, il y a ce qu'on appelle des dynamiques. Et il y a une dynamique très présente dans les systèmes, c'est la dynamique « je te suis ».« Je te suis », c'est « je te suis dans la mort », en fait. Donc, c'est là qu'on va voir les addictions, les accidents, les tentatives de suicide et autres. Et les « je te suis », on les voit quand quelqu'un est mort prématurément, mais on peut même le voir quand il y a une fausse couche juste avant. Comme si la personne qui arrive après la fausse couche, elle se disait « si l'autre était resté, moi, je ne serais pas là, donc je n'ai pas le droit de vivre ». Vous voyez, c'est très inconscient, hein. Mais dans la matrice de la maman, l'information, elle est là, même si le bébé n'est pas resté longtemps.
Ah, il y a des fausses couches, les avortements, ça peut être un problème aussi.
Alors, les avortements, oui, ça peut avoir des impacts aussi sur l'enfant qui arrive après. Notamment, il peut être très en colère ou alors très agité pour montrer que lui, il est vivant. Et on peut avoir des problématiques, des troubles d'attention chez les enfants qui suivent un avortement, par exemple. Ce n'est pas obligatoire. Parce que maintenant, les troubles de l'attention, j'ai envie de dire, c'est multicritère. Hein, trop de consommation de sucre, trop de consommation d'écran, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses. Hein, mais ça peut aussi être après un avortement. L'avortement, il y a plusieurs écoles en constellation. Certains considèrent que ça prend une place, comme les fausses couches dans la fratrie. D'autres considèrent qu'il n'y a pas de projet sens d'enfant. Et que si on les réintègre dans la fratrie, c'est-à-dire si on en parle à l'enfant quand il est petit, on lui fait porter le poids de la culpabilité. Parce que si on lui dit bah, « toi je t'ai gardé, mais l'autre je ne l'ai pas gardé », c'est assez lourd pour un enfant. Ça peut venir l'information plus tard quand la personne est adulte. Et ça arrive souvent d'ailleurs quand par exemple une fille vit un avortement, que tout à coup sa mère lui dit « mais tu sais, moi aussi j'en ai vécu un ». Mais ce n'est pas quelque chose à dire à un enfant petit. Alors, parfois, les enfants sont très sensitifs et ils vont sentir que maman est enceinte et qu'elle ne l'est plus. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux le dire si l'enfant l'a senti, vous voyez. Les enfants ont des antennes. Hein. Il faut savoir qu'un enfant, c'est comme une grosse éponge. Hein. Au début, il capte tout. Hein.
Et justement, si on le fait et qu'on ne le dit pas, cette antenne-là, il l'aura en mémoire. Est-ce que ça ne peut pas, une information qu'il n'a pas eue, justement, un blocage qu'il va ignorer, qui n'aura pas été dit, mais qu'il a ressenti, mais qu'il ne peut pas l'expliquer, puisque c'est que du ressenti, il n'en a pas conscience. Donc, quel est l'équilibre entre les deux?
C'est difficile. La question, c'est être capable de le dire à un moment où l'enfant est capable de l'entendre, de le dire en n'étant pas du tout dans l'affect, parce que si on le dit en pleurant, par exemple, parce que c'était tellement douloureux, ou si on le dit de façon trop légère à ce moment, c'est l'enfant qui va prendre la charge. Parce qu'il va se dire, mais maman, elle n'assume pas son acte finalement. Cet enfant, il a laissé sa place pour qu'elle puisse vivre ce qu'elle avait à vivre. Et elle n'honore pas ça. Donc, c'est moi qui vais m'en occuper finalement. Donc, ça dépend comment c'est dit, à quel moment c'est dit. Il n'y a pas de règle en la matière. On va tester dans les constellations si l'enfant avorté a une importance dans la fratrie ou pas. Il en aura toujours pour la mère, l'enfant avorté. Parce que bien souvent, elle sera dans des dynamiques d'expiation, inconscient. Même si une femme dit « j'ai très bien vécu mon avortement, de toute façon, je n'avais pas le choix, tout ça, etc. » Bien souvent, il y a des mécanismes d'auto-sabotage. C'est pas rare d'entendre « mes projets avortent », vous savez, rien que la formulation. Ou « j'arrive jamais au bout », ou « j'arrive pas, j'ai pas d'abondance dans ma vie », ou « je trouve pas de partenaire », ou « j'arrive pas à avoir des enfants ». Toutes les choses qui bloquent après dans la vie de la personne qui a vécu un avortement. Il n'y a pas du tout de dimension moralisatrice dans le travail qu'on fait en constellation. Mais d'un point de vue de l'âme, c'est douloureux de faire partir une autre conscience qui les avait choisies pour s'incarner. On testera s'il faut ou pas intégrer l'enfant avorté.
Ben, on va... Kinesio, non ?
Alors, pour les gens qui ont l'outil Kinesio, ça pourrait être testé, effectivement. Mais en constellation... On va choisir une personne qui va représenter l'enfant avorté et on va faire une proposition de placement pour voir si ça améliore le ressenti de chaque représentant ou pas. Donc c'est comme ça qu'on va tester. Et parfois, je ne vais pas dire que je vais faire rentrer l'enfant avorté pour ne pas induire ni influencer. Et je vais demander à la personne que je choisis et que mentalement j'assigne au rôle de l'enfant, puisqu'on est tous connectés, hein, avorté, je lui ai demandé de choisir une place là où elle est bien, peut-être qu'elle va se mettre dans la fratrie, peut-être pas. Alors, les avortements, avant que ce soit légalisé, c'était quand même très honteux aussi, hein, comme dans le vécu. Hein. Les gens, d'ailleurs, parfois, dans les questions, parce que je vais remplir, moi, un questionnaire généalogique préparatoire avant les constellations, ce qui évite à la personne de me donner trop d'informations devant le groupe, quand je fais du collectif, et qui évite d'influencer les participants. Comme ça, ils ont le minimum d'informations.
Les informations sont privées.
Oui, voilà, j'ai fait remplir dans le questionnaire pour éviter que la personne ne donne trop... Oui, et donc, de temps en temps, je vais projeter sur un représentant une fonction, un rôle, pour que, sans qu'il le sache, donc en aveugle, on va dire, d'une certaine manière, pour ne pas influencer les personnes déjà placées en constellation. Ça permet de tester, on parlait de ça, ça permet de tester ce qui se passe.
Mais quand vous faites remplir d'abord un questionnaire, oui. Vous faites un pré-diagnostic, non ? Tout se découvre lors de la constellation. Parce que donc tout le monde a des problèmes familiaux. Enfin, il y a forcément des problèmes dans chaque famille, que ce soit des avortements répétitifs, des viols, des... Bon. Mm-hmm. Mais vous, tout se découvre pas lors de...
Alors,
comment ça se passe ?
Moi, je fais personnellement, mais tous les constellateurs ne procèdent pas ainsi. Je fais remplir le questionnaire sur 5 pages, moi-même, et je fais le génogramme, le fameux arbre généalogique intelligent. Déjà, je vois toutes les résonances. Mais après, je vais travailler par rapport à la demande de la personne. Si elle me dit, j'ai aucun de mes projets qui aboutit, je vais plutôt avoir l'intuition de travailler sur s'il y a un avortement, son avortement.
Mais vous repérez déjà dès le départ quand même.
Oui, je vais repérer les portes. Maintenant, dans un système, on est plusieurs frères et sœurs et on n'a pas tous la même charge de tout. On se répartit le paquet, vous voyez. Il y en a un qui va peut-être expier un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie, l'autre qui va s'occuper de l'immigration, l'autre qui va s'occuper du prêtre qui est défroqué, je ne sais quoi. On n'est pas tous, donc ça veut dire que sur un même génogramme familial, la personne qui constelle n'aura pas nécessairement les problèmes de ses frères et sœurs. Donc je travaille toujours par rapport à la demande. Mais justement, l'intérêt pour moi de faire le génogramme avant, c'est que la personne, elle va me dire juste sa question. Et normalement, je n'ai pas trop de questions complémentaires à lui poser.
Il faut qu'elle fasse bien à l'avance. Alors, parce
elle m'envoie le questionnaire. Moi, par exemple, je constate dimanche 10 personnes, j'ai déjà fait tous les génogrammes.
D'accord.
Oui. Voilà.
Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être lourd pour la personne d'avoir les informations.
C'est ça. Si vous êtes curieux, vous verrez que le questionnaire, il est en ligne sur mon site. Vous pouvez le télécharger si ça vous amuse de le remplir. Parce que déjà, on n'a pas toujours idée de quelles sont les informations qu'on peut demander à sa famille. Et plus le temps passe, et moins il y a de survivants.
Mais oui, c'est ça, quand les gens sont morts.
Eh bien, parfois, on passe par la bande, c'est-à-dire les cousins-cousines, la voisine, une nourrice. Et parfois, on va faire le travail de généalogie de base. On va demander la copie intégrale, hein, pas l'extrait d'acte de naissance, la copie intégrale. Parce que sur la copie intégrale, vous aurez tous les mariages, vous aurez beaucoup plus d'informations. Vous aurez le nom des témoins. Et c'est aussi intéressant parce qu'en psychogénéalogie pure, on s'intéresse beaucoup aux synchronicités, aux petits messages de l'univers. Donc s'il y a, je ne sais pas, un témoin qui s'appelle Toussaint, par exemple, tiens, qu'est-ce que ça évoque qui s'est passé à la période de la Toussaint, par exemple, etc. Ou un métier particulier chez un témoin. Donc si vous êtes curieux, vous commencez à poser des questions, à remplir ce que vous pouvez. Et ensuite, vous allez passer à l'étape d'après, de demander les copies intégrales de vos parents, de vos grands-parents.
Les copies intégrales de mariage, alors.
Non,
de
copies intégrales de l'acte de naissance.
Ah oui.
Et parfois, les gens sont curieux, peuvent demander aussi la copie de l'acte de mariage. Oui. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Il y a des gens qui sont, dont c'est le métier de faire ça. Parce que bon, si vous prenez au jeu et que ça vous amuse, c'est passionnant parce que vous allez découvrir des choses. C'est assez troublant, hein, le travail de généalogie. Donc moi, je fais ça. Tous les constellateurs ne le font pas. Certains font remplir le questionnaire, mais ne l'utilisent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que ça fait faire un travail personnel à la personne qui va consteller et qu'elle aura déjà sa base de données. S'il y a des questions, voilà. Il y en a d'autres qui travaillent sans rien du tout. Ils vont travailler, Bert Hellinger faisait ça. Donnez-moi votre question en une phrase. Et si la personne est trop dans le blabla, stop. Pourquoi ? Parce que si on commence à raconter sa vie, vous avez 10 personnes là qui attendent. Et en général, les gens qui en racontent beaucoup aiment bien afficher la carte du parti victime. Inconsciemment encore, hein, ce n'est pas un jugement. Mais c'est souvent ça, regardez comme je suis malheureuse. Quoi. Regardez tout ce que j'ai vécu qui était douloureux.
C'est pas plus mal de faire une phrase, parce que ça synthétise en fait.
C'est ça.
C'est aller à l'essentiel.
Exactement. Donc là, ça va être plutôt, j'ai des personnes qui me disent, j'ai un problème relationnel avec un de mes enfants. Ok, on ne se voit plus depuis 10 ans. Alors là, il y aura peut-être quelques questions exploratoires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, ça s'est passé parce que je n'accepte pas sa femme. Ah, ok. Ça arrive, hein, dans les systèmes. Là, j'ai un monsieur qui me vient me voir au cabinet. Il est d'origine étrangère. Sa mère, ça fait 9 ans qu'il vit avec une femme française, donc c'est donc un couple mixte. Sa mère n'a jamais vu sa partenaire. Et aujourd'hui, il aimerait bien avoir des enfants, mais il aimerait bien avoir l'autorisation de sa mère. Parce que dans sa culture, la mère est toute puissante. Alors, c'est compliqué pour lui. Et il dit, j'aimerais bien m'émanciper du regard de ma mère. Mais là, si on travaille en constellation familiale, on ferait dire au fils, chère maman, j'ai quitté père et mère pour vivre ma propre vie. Et c'est avec elle que je fais ma vie. C'est elle, ma femme. C'est avec elle que j'ai envie d'avoir des enfants. J'honore la vie que tu m'as transmise et j'en ferai quelque chose de bien. C'est avec elle que je vais te donner des petits-enfants. Et la mère, elle aurait beau bougonner dans la constellation, et bien on l'amènerait à admettre que le courant de la vie, il va vers l'avant, il ne va pas vers l'arrière. Et qu'elle n'a pas à se mêler de la sexualité et de la vie privée de son fils, même si c'est sa mère. Parce que c'est incestuel, à un moment donné. Donc il y a plein de choses comme ça.
Une question pareille, parce qu'on a les familles, l'homosexualité, garçon ou fille,
oui.
Il y a une relation aussi.
Oui, il y a plein de raisons systémiques. Alors c'est pas un hasard si on choisit ce clan-là pour s'incarner et vivre une homosexualité. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme raison? Je vais essayer de vous les retrouver parce qu'il y en a plusieurs. Il peut y avoir une femme morte en couche. Ça c'est le tsunami dans un clan, une femme qui meurt en couche. C'est quoi le fantasme familial derrière? C'est, premièrement, la sexualité tue. Deuxièmement, l'homme est dangereux. Troisièmement, avoir un enfant, c'est dangereux. Donc, ben, il ne vaut mieux pas faire d'enfant. Donc, comme ça, je choisis quelqu'un du même sexe que moi. Et normalement, maintenant les choses changent, mais normalement, on ne peut pas avoir d'enfant. C'est quelqu'un du même sexe que soi. Ça, c'est une raison systémique. Il y en a d'autres. Ah oui, la personne représente... quelqu'un du sexe opposé qui manque dans le système, qui a été exclu. Par exemple, on attendait un garçon, il n'y en a pas. Ben voilà, la fille, elle va assumer le rôle du garçon et elle peut avoir la vie. Voilà. Ou alors, la personne peut être identifiée au premier amour de sa mère. Donc le garçon peut être identifié au premier amour de sa mère et donc il va chercher un partenaire comme le partenaire de sa mère.
Des couples qui se défont, qui ont eu des couples hétéros,
oui.
Qui se défont à la quarantaine, oui. Plus tard, hein, d'avoir eu des enfants,
oui.
C'est surprenant. Ça.
Oui, parce que le poids des convenances et le poids familial pour transmettre le nom, pour avoir une vie qui corresponde aux normes, est très lourd. Et qu'à partir du moment où ils ont fait ce que le clan attendait, ils se sentent un peu libérés de ce poids. Et qu'à la crise de la quarantaine, il y a quand même toute une crise identitaire où la personne tente de s'aligner avec qui elle est vraiment. Et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la crise du milieu de la vie, qu'il y a une recherche d'alignement. Et si c'est son choix, à ce moment-là, c'est là que ça va se poser. Pour les femmes qui auraient des tendances homosexuelles, mais qui ont quand même un désir d'enfant, il y a parfois le passage par le couple pour avoir l'enfant, mais une fois que c'est fait, à ce moment-là, elles reviennent vers leur préférence, en fait. Le premier partenaire de la mère, un enfant qui manque, ah oui, bah, l'abus sexuel. Parce qu'une femme, une femme ou un homme, hein, qui a été abusé sexuellement, j'ai eu beaucoup de femmes abusées sexuellement dans ma clientèle, bah, c'est dangereux, l'homme est dangereux. Donc, il vaut mieux aller vers une femme. Voilà, une autre raison.
Il y a des personnes disparues aussi, accident d'avion, la guerre, des choses comme ça. Des personnes disparues, il n'y a pas eu de deuil, il n'y a pas eu de... On ne retrouve pas la personne. Comment ça se gère dans les...
Alors, comment ça se gère de ne pas avoir retrouvé le corps?
La guerre 14, par exemple, beaucoup d'heures dans l'histoire, ils sont interdits à quelque part, mais
oui.
Jamais retrouvés.
En tout cas, il y a toujours des propositions de poser des rituels, des rituels symboliques. On n'a pas nécessairement besoin de retrouver le corps pour pouvoir faire un rituel. Et chacun, avec son cœur et éventuellement ses croyances, peut faire le rituel. d'écrire, de mettre des bougies, d'aller dans des lieux particuliers, s'adresser aux disparus, etc. Donc c'est tout à fait possible.
Des parents qui perdent leur enfant pour une raison quelconque, un adolescent et tout, sans jamais retrouver trace, ça arrive, ça.
Ah, dans le sens qu'il a disparu, ça peut être une fugue, on ne sait pas s'il est mort ou vivant.
Des choses, c'est
fréquent, oui, sans doute. Il y a beaucoup de personnes qui disparaissent chaque année. Dans ce cas-là, c'est compliqué de faire le deuil tant qu'on n'est pas sûr que la personne est morte. Parce qu'il y a toujours cet espoir que la personne finisse par refaire surface.
Et la constellation ne permet pas de recréer un lien, savoir, elle permet pas de dire si la personne est vivante ou si elle n'est plus vivante.
Je n'ai jamais eu le cas, donc je ne peux pas vous répondre. Je pense qu'il y a d'autres outils qui permettraient de mieux que ça de répondre. Je pense à la médiumnité ou à la kinésiologie, par exemple. Vous voyez, la constellation n'a pas pour vocation de faire de la voyance, même si de temps en temps, il y a quand même des choses qui émergent. Mais il y a des choses qui émergent qui ne sont pas toujours justes. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, dans la constellation, le père ne va pas se sentir concerné par son enfant, par exemple. Et donc, la personne, elle peut en conclure, donc mon père n'est pas mon père. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas concerné par son enfant qu'on n'est pas le père, ou la, vous voyez, d'abord parce qu'à certaines époques, les pères n'étaient pas investis comme ils le sont aujourd'hui dans l'éducation des enfants. Leur job, eux, c'est dans la représentation de l'époque, c'était d'aller bosser, de ramener l'argent à la famille, et pour eux, c'était ça leur contribution. Donc la relation affective avec l'enfant n'était pas très présente, en fait.
Les statistiques aussi du troisième enfant, les médecins le disent, le troisième enfant, c'est pas le père officiel, ça s'est passé ailleurs. Comment la mère vit ça? Comment ça va se passer ensuite?
Alors ça fait partie des généralités, mais je ne m'y risquerai pas. Le troisième enfant, le dernier, ne serait pas celui du conjoint? On ne sait pas. Alors, en constellation, on travaille toujours avec des faits concrets. Pour ça, je disais, c'est pas de la voyance.
L'ADN pourrait le dire, de toute façon.
L'ADN pourrait le dire. Oui, c'est justement, je reviens à mon idée. Voilà, ça y est. Donc, quand les gens disent, j'ai l'impression que mon père n'est pas mon père... Bert Hellinger donc, a fondé le travail de constellation, même s'il y avait déjà eu du travail systémique avant, a toujours dit, vérifiez, faites un test ADN. Et la plupart du temps, le père était le père. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas présupposer, parce que la personne ne se sent pas concernée par l'enfant, parce que l'enfant ne se sent pas attiré par le parent, que pour autant ce ne soit pas le vrai parent. Attention aux interprétations abusives. Donc,
ça, c'est quand par exemple, le test, la personne peut avoir la réponse que quand elle se la pose jeune et que les deux, sont encore vivants.
Ou que quelqu'un du système permettrait d'avoir le marquage ADN nécessaire.
D'accord.
Ouais. Oui, ça peut être le grand-père ou la grand-mère.
Et quand on rencontre des problèmes dans sa vie et que l'enfant est adulte,
oui.
Ou jeune adulte, est-ce qu'on doit lui en parler ou pas, pour éviter de transmettre quelque chose peut-être à l'enfant? Parce qu'on ne doit peut-être pas tout dire à son enfant. Quand on rencontre des problèmes professionnels, ou familiales, ou professionnels, est-ce qu'on doit tout raconter à son enfant?
Alors ça dépend de ce que ce tout recouvre. Ce qui se passe, c'est...
Des problèmes familiaux, ou je ne sais pas, pour éviter de transmettre peut-être...
C'est déjà transmis. En fait, que vous le disiez ou que vous ne le disiez pas, il y a quelque chose qui est transmis. Par contre, c'est transmis, mais la personne n'a pas la conscience de qu'est-ce qui est transmis. Et c'est ça qui est problématique, parce que n'ayant pas conscience de ce qui est transmis, elle ne peut pas faire le travail de s'en libérer. Donc elle le subit simplement. Voilà. Maintenant, tout n'est pas nécessairement à dire à n'importe quel moment. Il y a un bon timing aussi pour annoncer certaines choses... À l'enfant, ton père n'est pas ton père, je ne sais pas trop quoi. On va attendre le moment opportun pour le dire.
Ouais. Parce que papa le sait pas.
Sur tout ça.
Oui, mais alors. Ça ouvre la discussion, c'est pas mal aussi.
Mais c'est une question de.
Discuter d'un problème voilà. X ou Y, ça ouvre la discussion et justement un échange plutôt que de sentir que l'enfant puisse ressentir quelque chose qui ne va pas, simplement dans les attitudes. Du grand-père, de la grand-mère, des parents, parfois les attitudes peuvent changer. S'ils font la rétention quelque part sur des secrets ou des faits qu'ils ne veulent pas que ça se sache.
Les enfants captent très rapidement qu'il ne faut pas parler de tel sujet. Ou quand on évoque l'oncle Albert, tout le monde change de sujet, par exemple. Ou très, voilà, c'est comme, ils captent très vite qu'il y a un tabou sur telle ou telle personne, ils captent très vite qu'il ne faut pas parler de certains sujets, ils captent très vite que maman, elle est en larmes dès qu'elle voit un film qui parle de, je ne sais quoi, de l'Italie, on ne sait pas pourquoi, peut-être que son premier amour était italien, on ne sait pas, mais ils captent très vite qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas nommer, ils ne savent pas dire pourquoi. Et comme c'est sous l'omerta familiale, ils n'en parlent pas, en fait. À un moment donné, ça sera certainement intéressant que ce soit posé, parce que ça va permettre de libérer quelque chose. Sinon, le descendant, il va vivre des choses qu'il n'a pas à vivre pour essayer de rééquilibrer maladroitement quelque chose qui s'est passé avant. Encore une fois, les loyautés familiales invisibles et inconscientes.
Et comment vous arrivez à trouver, par exemple, ces histoires de loyauté? Souvent, la personne, elle peut avoir un mal-être.
Oui.
Qui soit, on va dire que c'est son sac à dos qu'il porte par rapport à ses ancêtres, mais sans qu'il sache que ses ancêtres ont fourgué son sac à dos. Quoi.
Déjà, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas toujours conscience de l'impact de ce qui s'est passé dans leur clan sur leur vie. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont leur vie et point barre. Alors qu'en fait, ils sont agis à l'intérieur d'eux-mêmes par ce qui s'est passé en amont, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, consciemment.
Comment vous pouvez travailler sur quelque chose qu'ils ne savent pas, en fait? C'est ça que je veux dire, en constellation familiale.
On va toujours travailler à partir d'une demande. Donc déjà, quelle est la demande? Et à partir de la demande, on va essayer de questionner pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la vie de la personne ou ce qui s'est passé au-dessus. Et comme on l'évoquait à certains moments, on va peut-être travailler sur des hypothèses en prenant telle une personne inconnue, si jamais c'est un mort, ou en prenant une personne exclue dont on ne saurait pas de qui il s'agit, on va travailler sur des pistes, parfois bonnes pistes, parfois mauvaises pistes. C'est pour ça que parfois on va faire rasseoir quelqu'un, parce qu'on a pris une personne qui représentait un concept, et puis mauvaise pioche. Ça peut arriver.
C'est étonnant lorsqu'on constelle, comme on est traversé par l'énergie de la personne ou concept qu'on représente. Je me souviens, si je peux prendre une demi, tout début que je fais la constellation, alors je connaissais les phrases de constellation, j'étais debout, j'entendais quelqu'un, et j'étais comme ça, Sylvie me donnait des phrases, je ne me souvenais de rien, et à la fin, j'ai appris que je représentais quelqu'un qui était Alzheimer et qui avait la maladie de Parkinson. Donc on est vraiment traversé par...
Peu importe, en fait, on travaille aussi bien avec des personnes vivantes que des personnes décédées. Et c'est pour ça que c'est très important de bien travailler à mettre en place une protection pour le travail, parce qu'on travaille avec le monde des esprits, d'une certaine manière. Et être très respectueux, comme disaient beaucoup de constellateurs, on ne va pas déranger les morts pour rien. Donc on vient avec une vraie demande, une vraie problématique. On ne fait pas ça par curiosité. Tiens, j'aimerais bien savoir comment ça se passait pour mon grand-père. Non, j'ai un problème dans ma vie. C'est parce que j'ai un problème dans ma vie que je vais voir si en constellation, il peut y avoir une piste de solution pour moi. Mais sinon, je ne vais pas déranger les morts pour rien. On y va avec respect et humilité. Cette semaine, j'ai eu une dame et un couple qui est venu avec... pour un de leurs enfants, qui est dans une dévalorisation plus, c'est un petit, il doit avoir 6-7 ans, et qui se tape, quand il dit « t'es nul », il se tape tout seul en fait. Et il a beaucoup de mal à s'exprimer, il a tendance à s'exclure. Donc je pose des questions aux deux parents, parce que ça peut venir d'un côté ou de l'autre, hein, donc on ne sait pas. Donc je dis, j'explore, je dis, qui dans votre système a pu être exclu? Personne. Okay. Parce que les gens n'ont pas toujours conscience de qu'est-ce que ça veut dire être exclu. Hein. Ensuite je dis, qui est mort prématurément? Alors là, il y a madame qui me dit, ah moi j'ai un grand-oncle qui est mort, frère de mon grand-père, il est mort à 10 ans. Et il était muet ou mutique, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi il est mort. Mais mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, n'en parlait jamais. Donc là, on a le typique, un exclu. Trop douloureux, on n'en parle pas, mais ça sous le couvercle. Donc, je fais le travail avec un représentant. Enfin, là, on était en cabinet, donc des papiers au sol, etc. On se va déplacer sur les papiers. Et donc, je fais représenter le grand-oncle muet, je fais représenter l'enfant, je fais un travail de pacification, et je reçois le soir même un SMS de la maman qui me dit, vous n'allez pas me croire, aujourd'hui les enfants sont allés au spectacle, et ils ont vu un spectacle, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est l'enfant qui ne parlait pas. Elle me dit, waouh, on travaille dessus, et en même temps, mon enfant, il voit ça au spectacle. Ça, c'est typique du champ informationnel, du champ dans lequel on est. Nous sommes tous des vagues dans l'océan. Et en tant que vague, on a l'impression d'être unique, d'être une vague. Mais prenez la vague et mettez-la en dehors de l'océan. C'est plus une vague. Nous sommes donc à la fois la vague et l'océan. Et nous ne sommes pas déconnectés des autres vagues et de l'intégralité de l'océan. Mais nous sommes dans un système qui nous divise et qui nous amène à croire que nous sommes séparés des autres. Or, nous ne sommes pas séparés des autres. Nous avons juste l'illusion d'être séparés des autres. Et dans la constellation, c'est criant, c'est que vous représentez n'importe qui du système de quelqu'un d'autre, vous allez être traversé par des informations, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous allez vous dire, mais pourquoi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous aurez du froid, du chaud, j'ai envie d'aller là, ou j'ai envie de me reculer, ou j'ai envie d'avancer, j'ai envie de prendre mon enfant dans les bras. Ce n'est pas votre enfant, hein, vous êtes juste un représentant, vous voyez ce que je veux dire. On est traversé par un champ d'informations qui nous dépasse. C'est pour ça que c'est un travail qui est plus grand que nous. Et je considère que c'est un privilège que de faire ce travail d'accompagnement, que je considère comme sacré au service des familles et d'une certaine manière de la grande famille humaine. Parce que réhabiliter quelqu'un dans un clan, et c'est pas que la personne qui va être soulagée, c'est à la fois son ascendant et ses descendants, et peut-être même ses frères et sœurs. Donc c'est, tout le monde y gagne. Mais on ne peut pas consteller pour quelqu'un d'adulte. Je ne peux pas consteller pour ma sœur, c'est à 40 ans. Je peux pas, j'ai une fois une dame qui vient me voir, elle me dit, je voudrais consteller pour ma sœur. J'ai dit, quel âge est-elle, votre sœur? 40 ans, je peux rien pour elle, c'est à elle de venir. Je respecte la loi du libre-arbitre et du consentement. Il faut le consentement de la personne, il faut qu'elle vienne. Elle n'est pas handicapée.
En fait, une constellation, on va dire, X est un enfant, une constellation, on va dire, à plusieurs personnes. Mmh. Et qu'il y a une personne qui est jeune, mmh, qui est accompagnée, par exemple, par un parent, d'accord. Comment on fait? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent un lien qui est fait, comme vous dites, pour la neutralité, pour que la personne puisse s'exprimer librement. La personne qui l'accompagne, il ne faut pas une caisse sorte, même si c'est un enfant. Non.
Alors, en constellation collective, je ne prends pas d'enfants. Ouais. Je ne prends que des adultes. Pourquoi?
Et jamais, donc jamais de couple ou jamais de lien de parenté.
Si, je peux avoir le couple, je ferai sortir le conjoint.
Oui,
je peux avoir des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, je peux avoir tout.
Il faut toutes les personnes qui ont un lien de parenté. Sortent au moment
où
la personne.
Qu'ils soient très amis.
Qu'ils soient
très amis. Mm-hmm. Enfin, très amis ou collègues, vous voyez, qu'on préserve la confidentialité.
Oui, l'idéal, il faut que les personnes n'aient pas de lien pour
c'est
représenter.
Mieux. Et... C'est mieux. Ça permet que chacun ait son espace de confidentialité, de sécurité. Ça m'est arrivé de consteller des couples sur la même problématique et en fait, la solution, il y a des solutions complémentaires qui sont sorties avec l'un et avec l'autre. Alors, pour revenir aux enfants, les enfants, pourquoi on ne les constelle pas en collectif? Parce que les enfants sont des éponges émotionnelles et vont capter toutes les énergies. Et je n'ai pas envie que les enfants récupèrent les énergies de personnes décédées qui sont dans la salle quand on travaille.
Et à partir de quel âge vous pensez que, c'est, que, cette personne, enfin, que la personne peut rentrer en collectif? C'est 18 ou c'est plus?
18.
C'est 18.
18, elle peut venir. Ça peut arriver, ça m'est arrivé de voir une constellatrice accueillir une adolescente de 16 ans, mais la personne est passée la première et ensuite elle est partie, pour ne pas se charger de tout ce qui s'est passé après. Parce que ils ont tendance à ne pas avoir de frontières énergétiques bien fermées. Déjà, les adultes n'ont pas forcément des frontières bien fermées. Alors les enfants, c'est juste open. Ils prennent tout ce qui traîne. Donc, j'ai pas envie que... Ils récupèrent des énergies, des entités et tout ça. Et d'ailleurs, après un travail de constellation, si quelqu'un éventuellement se sent chargé, moi je fais mon travail de protéger la salle, de leur demander de se protéger, de se mettre dans une colonne de lumière en début de travail, vous voyez, voilà, pour que sécuriser au maximum le travail, Mais si jamais la personne est quand même chargée, parce qu'elle avait peut-être des failles, je renvoie vers des énergéticiens, qui, et peut-être vous en faites partie, je ne sais pas, qui retirent les entités, qui nettoient. Je ne suis pas énergéticienne, je ne suis pas magnétiseuse. Donc, dans ce cas-là, j'ai des relais, des gens qui savent faire ça.
Oui,
et ça n'empêche pas de c'est pas ça préserver c'est... le travail que vous avez fait.
Donc, le tour constellation, ça ne marche pas.
Ah si, ça peut marcher. Par exemple, une fois que vous avez conscience des choses et que vous comprenez, par exemple, que la relation avec votre parent, vous n'avez pas su l'honorer parce que vous étiez dans une, vous sentiez supérieur au parent. Parce que c'est ça, hein, quand on a pris en charge le parent, l'enfant, il se voit supérieur. Et dans la constellation, l'enfant, la personne qui représente l'enfant, il dit oh, « Mon parent, il est tout petit. Hein. » Le parent, parfois, il dit « Je me sens plus petit que mon enfant. » C'est vraiment... typique de l'inversion des rôles hein, dans la famille. On peut s'auto-consteller dans le sens, si je connais les phrases, je peux m'incliner devant mon parent, et même s'il est mort, je peux imaginer que j'ai mon parent devant moi. Je peux m'incliner devant mon parent, je lui dis, chère maman, j'honore la vie que tu m'as transmise et que j'ai moi-même transmise à mes enfants. S'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance. Si je me réalise en tant qu'être, en tant que femme, en tant que professionnelle, en ton honneur aussi. À un certain niveau de mon être, je t'ai choisi comme mère pour vivre les expériences dont j'avais besoin. Éventuellement, je fais dire un peu en boutade, je savais que ça ne serait pas de la tarte. C'est exactement ça qui s'est passé. De toi, je prends la vie et maintenant, je prends mon bonheur aussi. Un exemple de phrase de pacification. On peut dire soi-même.
Vous dites, je t'ai choisi comme mère.
Un certain niveau de mon être, avant de m'incarner. Évidemment que quand on arrive, on oublie tout. Parce qu'on a l'ardoise magique, l'effacement de la mémoire, on oublie. D'ailleurs, il y avait eu, il y a quelques années en arrière, un ciné-forum à Sarlat sur la naissance. Et il y avait une petite fille qui était filmée, qui avait témoigné qu'elle se rappelait. Parce qu'il y a des enfants qui sont encore connectés. Hein, se rappelait très bien avoir eu le choix entre deux familles, en tant que conscience. Et elle a dit, il y avait une famille, ils avaient vraiment l'air très très gentils. Et dans l'autre famille, le papa, je savais que ça serait compliqué avec lui. Mais je savais que lui, j'allais pouvoir le faire progresser. Et comme on dit en constellation, nous éduquons nos enfants, ils nous élèvent. Voilà. Elle se rappelait d'avoir choisi sa famille. Pour revenir à l'intérieur de vous-même, les deux yeux, c'est bien aussi. Et à chaque respiration, prenez conscience que vous prenez ce dont vous avez besoin, à l'inspire. Et à l'expire, vous relâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout vos tracas, tout ce qui vous encombre, la fatigue peut-être de cette fin de journée. Et vous vous détendez un petit peu plus. Et donc c'est une visualisation pour vérifier votre place dans votre propre fratrie. Et vous allez tranquillement vous centrer dans votre corps. Et intérieurement, vous allez prononcer le nombre de votre place dans votre fratrie. Par exemple, si vous êtes le deuxième enfant, vous allez laisser résonner à l'intérieur de vous le chiffre 2. Est-ce que ça vous semble juste ce chiffre ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce chiffre ? Si ça n'est pas le cas, vous pouvez tenter le chiffre suivant. Intuitivement, jusqu'à ce que vous sentiez que le chiffre, le nombre, vous convient. Est-ce que c'est plus confortable avec un autre nombre ? Est-ce que vous vous sentez mieux ? Et puis, je vais vous inviter à positionner sur votre droite, les aînés que vous avez dans votre fratrie, si vous avez des aînés, dans l'ordre chronologique d'arrivée sur Terre, que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas, que ce soit des frères ou des demi-frères ou des demi-sœurs, ou des sœurs, et qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Et vous allez les positionner à votre droite si vous en avez. Et puis sur votre gauche, si vous avez d'autres frères et sœurs, vous allez positionner les enfants qui sont nés après vous, dans l'ordre des naissances. Et vous allez vous positionner un peu en arc de cercle. À droite, les aînés et à gauche, les plus petits. Et vous allez les regarder l'un après l'autre. Et vous allez leur dire, moi je suis le numéro, et vous allez dire le nombre qui résonne juste pour vous. Je suis ton petit frère ou ta petite sœur. Ou bien je suis ton grand frère ou ta grande sœur. Et toi, tu es le numéro, vous allez dire le numéro de la personne. À ceux qui sont morts ou inconnus avant votre naissance, vous pouvez également leur dire « Je suis désolée de ne pas t'avoir connue. Merci de me regarder avec bienveillance, même si je suis peut-être vivant grâce à ton départ. Et je vous invite à écouter la résonance corporelle de ces phrases à l'intérieur de vous. Et si c'est nécessaire, vous pouvez même dire « Maintenant, je vous vois tous et je vous garderai tous dans mon cœur. Je ferai quelque chose de bien de ma vie en votre honneur aussi, en votre souvenir. Votre sacrifice ou votre départ n'aura pas été inutile. » Maintenant, je vous invite à placer vos parents devant vous et à vous incliner devant vous, comme on fait une révérence. Et je vous invite à leur dire, si c'est pertinent, bien sûr, par rapport à votre système familial, « Chers parents, aujourd'hui, nous sommes au complet. » Et vous pouvez rajouter « J'honore et je respecte la vie que vous m'avez transmise. » Et j'en ferai quelque chose de bien, en votre honneur aussi. De vous, je prends la vie, et maintenant, je prends mon bonheur aussi. Et sentez ce qui se passe à l'intérieur. Et si vous avez quelque chose à leur dire, c'est le moment de le dire depuis votre cœur. Tout ce que vous n'avez peut-être pas pu leur dire. Et puis, je vais vous inviter à reprendre 3 grandes respirations pour, à votre rythme, revenir ici maintenant. Plein d'énergie et de vitalité, prêt à reprendre la route. La visualisation rêve éveillé pour faire les constellations, oui, il y a une petite phase de mise en place et d'induction légère pour que la personne se mette dans un léger état modifié de conscience, mais ça n'a pas le même objectif, disons. Ça va être beaucoup plus peut-être directif ou en visualisation. On va demander, là on a fait quelque chose de très simple, mais parfois on va demander où est-ce que vous avez positionné votre parent, à quelle distance par rapport à vous, etc. Donc ça va, les placements sont porteurs de sens en fait dans une constellation. On ne place pas les gens par hasard, et l'image que l'on va placer en prenant X ou Y personnes représente l'image intériorisée de notre système, et en général l'image intériorisée de la problématique du système. Sinon, on ne vient pas consteller, c'est qu'il n'y a pas de problématique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle soirée.